Un jour, il me demanda « Pourquoi des pourceaux ?» Nous étions assis devant ma cheminée dans nos sièges favoris. Il aimait bien celui qui était recouvert de peaux de vache, ornées d'argent incrusté dans le bois. Parfois, il en caressait les volutes d'un air absent avec son pouce. « Pourquoi pas ?» répondis-je. Il me décocha un sourire franc. « Je suis sincère. J'aimerais vraiment savoir. » Je savais qu'il était sincère. Ce n'était pas un homme pieux, mais traquer le sens caché des choses était ce qu'il vénérait par-dessus tout. Il y avait des réponses en moi. Je les sentais, aussi profondément enfouies que les bulbes de l'année précédente en train de germer. Leurs racines s'entremêlaient avec les moments que j'avais passés cloués contre le mur, quand mes lions étaient partis, que mes sorts étaient coincés en moi et que mes cochons couinaient dans leur enclos. Après avoir transformé les membres d'un équipage, je les observais en train de gratter la terre et de gémir dans la porcherie, tombant les uns sur les autres, foudroyés d'horreur. Ils détestaient tout, leur nouvelle enveloppe voluptueuse, leurs délicats petits pieds fendus, leur ventre gonflé qui traînait dans la boue. C'était une humiliation, un avilissement. Ils étaient malades de regret, en songeant à leurs mains, ces appendices que les hommes utilisent pour soulager le monde. « Allons, leur disais-je, ce n'est pas si terrible. Vous devriez apprécier les bons côtés de la condition de cochon. Comme ils sont vifs et glissants de boue, on a du mal à les attraper. Ils sont bas sur pattes et donc difficiles à renverser. À la différence des chiens, ils n'ont pas besoin de notre amour. Ils peuvent prospérer n'importe où, de n'importe quoi, de restes, de détritus. Et en dépit de leur air obtus et terne qui endort leurs ennemis, ils sont malins, ils se souviennent des visages. » Ils ne m'écoutaient jamais. La vérité, c'est que les hommes font de pitoyables pourceaux. Depuis mon siège au coin du feu, je levais ma coupe. « Parfois, poursuivis-je, on doit se contenter de rester dans l'ignorance. » Il n'apprécia pas cette réponse, et pourtant c'était là sa perversion. En un sens, c'était aussi celle qu'il préférait. J'avais vu la façon dont il pouvait extraire la vérité d'un homme comme on ouvre une huître, s'immiscer dans un cœur d'un simple coup d'œil ou d'un mot bien senti. Si peu de choses au monde résistaient à son auscultation. En fin de compte, je crois que ma résistance était ce qu'il préférait chez moi. Mais je mets la charrue avant les bœufs. « Un navire !» annoncèrent les nymphes. « La coque pleine de raccords, avec des yeux peints dessus !» Cette information retint mon attention. Les pirates ordinaires n'avaient pas d'or à dépenser en peinture. Néanmoins, je n'allais pas voir. L'anticipation faisait partie du plaisir. Le moment où l'on frappait et où je me levais en abandonnant mes herbes pour ouvrir la porte en grand. Les hommes pieux ne venaient plus, je n'en avais pas vu depuis longtemps. Dans ma bouche, le sort était aussi patiné qu'un caillou au fond d'une rivière. J'ajoutai une poignée de racines à la potion que j'étais en train de préparer. Le liquide, qui contenait du moly, luisait de son pouvoir. L'après-midi s'écoula, mais les marins n'apparurent pas. Mes nymphes me rapportèrent qu'ils campaient sur la plage où ils avaient allumé des feux. Une autre journée passa, et enfin, le troisième jour, on frappa à la porte. Ce navire peint constituait leur plus grand atout. Ils avaient des peaux ridées de grand-père, des yeux morts et injectés de sang. Ils tressaillirent à la vue de mes animaux. « Laissez-moi deviner. Vous êtes perdus ? Vous avez faim, vous êtes triste et fatigué ?» Ils mangèrent de bon appétit, burent encore davantage. Ils avaient des boules de graisse un peu partout sur le corps, même si les muscles au-dessous étaient aussi durs que des arbres. Leurs cicatrices étaient longues, obliques et en relief. Ils avaient fait une bonne saison avant de rencontrer quelqu'un qui n'aimait pas les voleurs, car il s'agissait bien de pillards, je n'en doutais pas. Leurs yeux n'arrêtaient pas une seconde de compter mes trésors, et ils souriaient de toutes leurs dents à la perspective de ce butin. Je n'attendais plus qu'ils se lèvent pour s'en prendre à moi. Je brandis mon bâton, prononçai le mot fatidique. Ils partirent dans leur enclos en gémissant comme les autres. Les nymphes m'aidaient à redresser les bancs renversés et à nettoyer les taches de vin quand l'une d'elles jeta un coup d'œil par la fenêtre. « Maîtresse, il y en a un autre sur le chemin !» Je m'étais bien dit que cet équipage était trop restreint pour un bateau entier. Certains avaient dû attendre sur la plage, et maintenant, l'un d'entre eux avait été envoyé voir ce qui était arrivé à ses camarades. Les nymphes versèrent davantage de vin avant de s'éclipser. J'ouvris la porte lorsque l'homme frappa. Le soleil tardif faisait ressortir le roux cendré de sa barbe bien taillée et ses cheveux qui grisonnaient légèrement. Il portait une épée accrochée à la taille. Il n'était pas aussi grand que d'autres, mais je vis que c'était un homme robuste, aux articulations aguerries. « Madame, dit-il, mon équipage a cherché refuge auprès de toi. J'espère que je peux faire de même. » Je mis toute la luminosité de mon père dans mon sourire. « Tu es autant le bienvenu que tes amis. » Je le détaillai en remplissant les coupes. « Encore un voleur, pensais-je. » Contre toute attente, son regard effleura à peine mes ornements dorés. En revanche, il s'attarda sur un tabouret renversé que, se penchant, il remit d'aplomb. « Merci, ce sont mes chats, » expliquai-je. « Ils font constamment tomber quelque chose. » « Bien sûr. » Je lui apportai de la nourriture et du vin avant de le conduire près de l'âtre. Son gobelet à la main, il s'assit sur le siège argenté que je lui indiquai. Je notai qu'il grimaçait un peu en se penchant, comme si des blessures récentes le faisaient souffrir. Une cicatrice en zigzag remontait le long de son mollet musclé, de la cheville à la cuisse, mais elle était ancienne, partiellement estompée. Il désigna mon métier à tisser avec sa coupe. « Je n'en ai jamais vu de pareil. A-t-il été conçu en Orient ?» 1000 hommes dans son genre étaient passés par cette pièce. S'ils avaient tous détaillé l'or et l'argent centimètre par centimètre, aucun d'entre eux n'avait jamais remarqué le métier. J'hésitai brièvement. « Il est égyptien. »«
Ah, il fabrique les meilleurs outils, n'est-ce pas ? C'est intelligent d'utiliser une seconde barre au lieu de poids. » C'est tellement plus efficace pour faire descendre la trame. J'aimerais bien en avoir un croquis. »
Sa voix sonore et chaude exerçait une attraction aussi puissante que les marées.
Mon épouse serait enchantée. Ses poids la rendaient folle. Elle n'arrêtait pas de dire que quelqu'un devrait inventer un système plus performant. Hélas, je n'ai pas trouvé de temps à y consacrer. Une de mes nombreuses failles en tant que mari.
Mon épouse. Ces mots m'agacèrent. Si un seul des hommes de tous ces équipages en avait eu une, il ne l'avait jamais mentionnée. Il me sourit, maintenant ses yeux sombres fixés sur les miens. Il tenait son gobelet levé d'une main souple, comme s'il allait boire d'une seconde à l'autre.
Quoique, en vérité, ce qu'elle préfère dans le tissage, c'est que pendant qu'elle travaille, son entourage pense qu'elle n'entend pas ce qu'ils disent. C'est ainsi qu'elle récolte les meilleurs ragots. Elle est capable de dire qui va se marier, qui est enceinte et qui est sur le point de chercher querelle à qui.
Ta femme semble être une personne intelligente.
C'est vrai. Je ne sais pas par quel mystère elle m'a épousée, mais comme c'est à mon avantage, j'essaie de ne pas attirer son attention là-dessus.
Cette réflexion m'arracha un rire surpris. Quel homme s'exprimerait ainsi ? Personne que j'ai jamais rencontré. Et malgré tout, il y avait chez lui quelque chose de presque familier. « Où est-elle en ce moment ? Sur ton bateau ?
Chez nous, et j'en remercie les dieux. Je ne l'obligerai pas à naviguer avec une bande de ruffians pareils, sans compter qu'elle gère la maison mieux que n'importe quel régent. »
À présent, j'étais sur le qui-vive. Les marins ordinaires ne parlaient pas de régent et ne sembleraient pas aussi à l'aise, assis sur un siège incrusté d'argent. Il s'appuyait sur l'accoudoir sculpté comme s'il était dans son lit.
« Tu trouves ton équipage dépenaillé ? » repris-je. « Il ne me semble pas très différent des autres hommes. » « C'est gentil de ta part, quoique la moitié du temps j'ai peur qu'ils ne se comportent comme des animaux. »« C'est ma faute, » soupira-t-il. « En tant que capitaine, je devrais mieux les surveiller. » Mais nous avons fait la guerre et tu sais à quel point ces circonstances peuvent salir les meilleurs des hommes. Et cela, même si je les aime beaucoup, personne ne dira jamais d'eux que ce sont les meilleurs. »
Il s'exprimait sur le ton de la confidence, comme si je comprenais.
alors que tout ce que je savais en matière de bataille se limitait aux histoires de titans de mon père. Je continuais à siroter mon vin. La guerre m'a toujours semblé être un choix stupide pour les mortels. Quoi qu'ils puissent y gagner, ils ne disposent que d'une poignée d'années pour en profiter avant de mourir. Et le plus probable est qu'ils périssent en essayant. Cela dit, il y a aussi la question de la gloire. J'aurais aimé que tu puisses parler à notre général. Tu nous aurais peut-être épargné bien des ennuis. Quelle était la raison de ces combats ? Voyons si j'arrive à me souvenir de la liste. Il compta sur ses doigts. La vengeance, le désir, l'hybris, l'avidité, le pouvoir. Qu'ai-je oublié ? Ah oui, la vanité et le dépit. Voilà qui ressemble à une journée ordinaire en compagnie des dieux. Il leva une main en riant. C'est ton privilège divin de déclarer ceci, madame. Je remercie seulement le ciel qu'autant de ces dieux aient combattu à nos côtés. Privilège divin. Il savait donc que j'étais une déesse, sans pour autant avoir l'air admiratif. J'aurais pu être sa voisine, avec qui il discutait de la récolte des figues par-dessus la clôture. Des dieux qui ont combattu parmi les mortels ? Qui donc ? Héra, Poséidon, Aphrodite et Athéna, bien sûr. Je fronçai les sourcils. Je n'avais rien entendu de tel. Il est vrai que je n'avais aucun moyen d'être informée. Hermès ne venait plus depuis longtemps, mes nymphes ne s'intéressaient pas aux histoires du monde, et les hommes qui s'asseyaient à mes tables ne pensaient qu'à leurs appétits. Mon horizon s'était rétréci à mon champ de vision et à ce que j'avais à portée de main. Ne crains rien, je ne vais pas t'ennuyer avec cette longue histoire, mais elle explique pourquoi mes hommes sont en si piètre état. Il y a 10 ans que nous combattons sur les rives de Troie, et maintenant, ils ont désespérément envie de retrouver leur maison et leur foyer. 10 ans ? Troie doit être une véritable forteresse ? Oh, elle était solide, c'est vrai, mais ce sont nos faiblesses qui ont prolongé la guerre, pas ses forces. Cette information aussi me surprit. Non pas que ce soit vrai, mais qu'ils l'admettent. Cet auto-dénigrement ironique était désarmant. Vous avez passé bien du temps loin de chez vous. Et le délai s'est encore allongé. Il y a 2 ans que nous avons quitté Troie. Notre trajet de retour a été plus difficile que je ne l'aurais souhaité. Il n'est donc pas nécessaire de t'inquiéter au sujet du métier à tisser. Depuis le temps, ta femme aura renoncé à t'attendre et en aura inventé un plus performant elle-même. Même si elle restait plaisante, je notais que son attitude s'était subtilement modifiée. Tu as probablement raison. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait aussi doublé nos terres. Et où se trouvent ces terres dont tu parles ? Près d'Argos, des vaches et de l'orge, tu vois. Mon père a des vaches, lui aussi. Il préfère celles dont le pelage est d'un blanc très pur. Elles sont difficiles à produire. Il doit être bon éleveur. Oh oui, rien d'autre ne l'intéresse. Je l'observais. Il avait les mains larges et calleuses. Il agitait sa coupe de ci de là, éclaboussant un peu de vin par moment, sans jamais le renverser. Et il n'y avait pas trempé ses lèvres une seule fois. Je suis désolée que mon cru ne soit pas à ton goût. Il baissa les yeux, apparemment surpris de trouver encore la coupe entre ses mains. Toutes mes excuses, j'apprécie tellement ton hospitalité que je l'avais oubliée. Il se tapota la tempe avec les doigts. Mes hommes disent que j'oublierais ma tête si elle n'était pas rattachée à mon corps. Où as-tu dit qu'ils étaient partis déjà ? J'avais envie de rire. La tête me tournait un peu, mais je répondis d'un ton aussi assuré que le sien. « Dans le jardin à l'arrière. Il y a un coin d'ombre excellent pour se reposer là-bas. » Je dois avouer que je suis épatée. Ils ne sont jamais si calmes avec moi. Tu dois avoir eu un sacré effet sur eux. J'entendis un bourdonnement semblable à ceux qui précèdent un enchantement. Son regard ressemblait à une lame bien aiguisée. Tout ceci n'avait constitué qu'un prologue. Tels 2 acteurs dans une pièce, nous nous levâmes. « Tu n'as rien bu, » remarquai-je. « C'est malin. Mais je suis toujours une sorcière et tu es chez moi. J'espère que nous pourrons régler ce différend raisonnablement. » Il avait reposé son gobelet. Sans dégainer son épée, il laissa sa main posée sur la garde. Les armes ne m'effraient pas plus que la vue de mon propre sang. Dans ce cas, tu es plus courageuse que la plupart des dieux. Un jour, J'ai vu Aphrodite abandonner son fils sur le champ de bataille à cause d'une égratignure. Les sorcières ne sont pas aussi délicates. La garde de son épée était balafrée par 10 ans de bataille et son corps criblé de cicatrices, bandé, prêt à réagir. Bien que courte, ses jambes étaient tendues de muscles. J'eus la chair de poule en me rendant compte qu'il était beau. « Dis-moi, » repris-je, « qu'y a-t-il dans le sac que tu gardes si près de ta ceinture ?»«
Une plante que j'ai trouvée. »«
Racines noires, fleurs blanches. » »«
Exactement. »
Les mortels ne peuvent pas cueillir le moly.
Non,
répondit-il simplement.
Tu as raison.
Qui était-ce alors? Non, peu importe. Je le sais. Je pensais à toutes les fois où Hermès m'avait regardé le ramasser en me questionnant sur mes enchantements. Si tu avais du moly, pourquoi n'as-tu pas bu? Il a dû te dire qu'aucun sort que je te jetterais ne pourrait plus t'atteindre.
C'est vrai. Mais il y a en moi une prudence maniaque dont j'ai du mal à me débarrasser. J'ai beau lui être très reconnaissant, le maître des illusions n'est pas réputé pour sa fiabilité. T'aider à me transformer en pourceau serait exactement le genre de plaisanterie dont il est friand.
Je crois que tu es Ulysse, né du même sang que cet illusionniste-là. Ce savoir surnaturel ne le fit pas sursauter. C'était un homme habitué aux dieux.
Et toi, la déesse Circé, fille du soleil.
L'entendre prononcer mon nom déclencha en moi un sentiment inconnu, vif et impatient. Il ressemblait à la marée, pensais-je. Quand on levait les yeux, la grève avait disparu. La plupart des hommes ne me connaissent pas pour ce que je suis.
D'après mon expérience, la plupart des hommes sont des idiots. J'avoue que tu as failli me pousser à me trahir. Ton père, un gardien de vaches.
Il souriait, m'invitant à rire comme si nous étions 2 enfants facétieux. Es-tu un roi? Un seigneur?
Un prince.
Dans ce cas, prince Ulysse, nous sommes dans l'impasse, parce que tu as le moly et que j'ai tes hommes. Je ne peux pas te faire de mal, mais si tu t'en prends à moi, ils ne redeviendront jamais eux-mêmes.
C'est ce que je craignais. Et bien sûr, ton père, Hélios, est prompt à se venger. J'imagine que je n'aimerais pas le voir en colère.
Même si je savais qu'Hélios ne me défendrait jamais, je n'allais pas l'avouer à Ulysse. Tu dois comprendre que tes hommes m'auraient dépouillé sans vergogne.
J'en suis désolé. Ils sont stupides et jeunes, et je me suis montré trop indulgent avec eux.
Ce n'était pas la première fois qu'il s'excusait. Je laissais mes yeux s'attarder sur lui, le jauger. Il me rappelait un peu Dédale, pour son humeur égale et son esprit. Derrière cette aisance, je sentais malgré tout un tumulte intérieur qui avait toujours été absent chez Dédale. J'avais envie de le voir le dévoiler. « Nous pourrions peut-être trouver une autre solution, » suggérai-je. Il avait laissé sa main sur la garde de son épée, tout en parlant comme si nous étions en train de décider de nos projets pour le dîner.
« Que proposes-tu ? »
« Sais-tu qu'Hermès m'a un jour parlé d'une prophétie qui te concerne ?»«
Oh, et que disait-elle ?»
Que c'était ton destin de venir dans ma demeure.
Et
c'est tout. Il arqua un sourcil.
J'ai bien peur que ce soit la prophétie la plus insipide que j'ai jamais entendue.
J'eus un petit rire. Je me sentais prête à frapper, tel un aigle sur son promontoire. Mes serres étaient encore agrippées au rocher, mais en pensée, j'étais déjà dans les airs. Je propose une trêve, annonçai-je. Une sorte de test.
Quelle sorte de test?
Il se pencha légèrement en avant. C'était un geste que je finirais par connaître. Même lui ne pouvait pas tout dissimuler. Il était prêt à se lancer à l'assaut de n'importe quel défi. Sa peau sentait l'effort et la mer. Il avait 10 ans d'histoire à raconter. J'étais aussi avide de les entendre qu'un ours au printemps. Il paraît que beaucoup trouvent leur confiance dans l'amour, poursuivis-je. Cette déclaration le surprit et, oh, j'aimais cette expression fugitive avant qu'il ne la dissimule.
Madame, seul un imbécile refuserait un tel honneur. Mais en vérité, je crois aussi que seul un imbécile accepterait. Je suis mortel. Dès l'instant où je poserai le moly pour te rejoindre dans ton lit, tu pourras me jeter ton sort.
Il marqua une pause.
À moins, bien sûr, que tu ne prêtes serment de ne pas me faire de mal sur la rivière des morts. Un serment sur la rivière Styx aurait lié même Zeus en personne. Tu es prudent, commentai-je.
Il semble que nous ayons cela en commun.
Non, songeai-je, je n'étais pas prudente. J'étais téméraire, irréfléchie. Lui aussi était un poignard, je le sentais. Un poignard d'un autre genre, mais un poignard tout de même. Cela m'était égal. Va pour le poignard, pensais-je. Il y a des choses qui valent la peine de verser un peu de sang. Je vais prêter ce serment, déclarai-je.